grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Second volet ce matin de notre émission consacrée à la médecine du bon sens, une médecine qui permet aux patients de puiser dans ses ressources internes pour prévenir, ralentir l'apparition de certaines pathologies, améliorer sa qualité de vie et pourquoi pas se donner les moyens de vivre plus vieux sans gros pépins de santé, une médecine préventive qui se base essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques mais également sur un autre regard sur son existence. Avec nous ce matin le cardiologue Frédéric Salma et le psychiatre Michel Lejoyeux. Et comme chaque lundi, évidemment, Aline Pérodin, directrice de Santé Magazine. Questions, témoignages, réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu, romancier et médecin en duplex de votre bonne ville de Toulouse, de notre bonne ville de Toulouse. Tout à l'heure dans votre chronique, alors voilà, vous nous raconterez une médecine à visage humain.
Quoi de neuf ce matin? On va parler trajectoire de vie aujourd'hui.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rémy.
Bonjour Frédéric Salman.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et l'auteur de Vital publié chez Albin Michel. Bonjour Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens et vous publiez La médecine du bon sens chez Lattès. Alors pour ceux qui auraient raté le précédent épisode, rappelez-nous Michel Lejoyeux ce qu'est la médecine du bon sens qui n'est pas forcément une médecine simpliste et un peu rétrograde.
La médecine du bon sens, c'est se tourner vers l'histoire et en tirer une leçon extraordinairement optimiste. Nous avons en nous des super pouvoirs de protection, de résilience, même d'auto-traitement. C'est connu depuis très très longtemps. Et ce qui est nouveau, c'est que quelques recherches récentes viennent de montrer, un, que ça existe et deux, la manière de s'en servir. Nous avons en nous une bonne nature depuis la préhistoire, depuis Hippocrate, et cette bonne nature ne demande qu'une toute petite aide pour être mise en marche.
Frédéric Salman, la médecine préventive, c'est un peu le leitmotiv de quasiment tous vos livres.
Absolument.
On pourrait même dire que vous radotez de livre en livre, si non. On voulait être méchant. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, parce que c'est extraordinaire. Il existe des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer, en bénéficier. Et on fait des progrès incroyables dans ce sens aujourd'hui. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai sorti ce nouveau livre? Parce qu'il y a des nouvelles découvertes qui changent tout. Et pouvoir se soigner sans avoir recours aux médicaments chaque fois que c'est possible, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un potentiel en nous qui demande qu'à être développé. Et c'est pour ça que je transmets ces informations pour que tout simplement le plus grand nombre en bénéficie.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement, et en particulier la ministre de la Santé Agnès Buzyn, en fait assez concernant la médecine préventive, Michel Lejoyeux?
Alors, il m'appartient pas complètement de commenter la politique publique, mais je crois qu'il y a des petites choses qui évoluent et qui évoluent dans le bon sens. Deux choses. Une première, c'est qu'on s'aperçoit que nos structures de soins doivent aussi faire de la prévention. On reprend un peu, vous savez, cette vieille leçon de la Chine où le médecin n'était payé que quand son patient allait bien. Qu'on n'est pas forcément dans l'inflation systématique des soins, mais aussi dans l'idée de se dire que si on soigne un petit peu moins de manière médicale ou hospitalière, on va mieux. Et puis une autre chose, c'est à chaque fois qu'on fait des campagnes vis-à-vis des dangers de l'alcool, vis-à-vis des dangers du tabac, vous savez à quel point on est intraitable sur ces sujets-là, on fait des campagnes de santé et vraiment de médecine du bon sens.
Frédéric Salman, sur la politique du gouvernement en matière de prévention?
Ben écoutez, ils font bien, mais il y a beaucoup à faire. Vous savez, prenons un exemple tout simple. Aujourd'hui, de quoi meurt-on souvent? C'est lié à l'excès de poids. Tout simplement, quand on est trop gros, ça fait plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires avant même les effets tout simplement esthétiques. Eh bien, quand on sait que 95% des gens qui démarrent un régime échouent, moi je suis très content d'expliquer qu'il y a des coupe-faim naturels puissants qui fonctionnent et qui permettent d'avoir un poids de forme à l'année.
Par exemple?
Ben, alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. Très simplement, vous savez, tiens, prenez un verre d'eau glacée avant le repas, ça paralyse le nerf vagal postérieur, c'est à l'anesthésie. Et tout simplement, c'est le nerf de la faim, on mange moins tout de suite. Mettez du pain 8 jours au frigo, et ben vous verrez en le ressortant, il y a plein d'amidon résistant, c'est un coupe-faim puissant.
Il faut aimer ça.
Ah, il y en a des centaines, je peux.
Aline Perraudin.
Mais la semaine dernière, il y a eu un comité interministériel qui a parlé de la prévention, et notamment en matière d'activité physique et de nutrition. Donc ça va dans le bon sens, mais je crois que la prévention, elle n'est pas uniquement médicale. C'est pas uniquement avertir sur les risques du tabac et de l'alcool, c'est extrêmement important, mais c'est aussi bien qu'il y ait plus de possibilités pour faire du sport, plus de piscines, plus de trottoirs larges où on peut marcher. Enfin voilà, c'est repenser la ville aussi peut-être,
le
et la campagne.
Le point de vue du médecin généraliste à Toulouse, Baptiste Beaulieu.
Je pense que tout ce qui permet d'une manière ou d'une autre aux personnes qui souffrent parfois de troubles alimentaires de pouvoir un tout petit peu mieux gérer les compulsions et du coup le stress, tout ça, il faut foncer. Après, quand le docteur Salman parle du verre d'eau, tout ça, ça paraît très simple comme ça, mais dans les faits, je suis pas sûr qu'une personne qui a un trouble installé depuis des années, par exemple...
Quels sont les freins pour vous, Baptiste Beaulieu, au fait que parfois les patients n'arrivent pas à suivre cette médecine préventive ?
La première chose, c'est l'observance. C'est-à-dire que c'est compliqué pour certains patients de se tenir à un programme, c'est-à-dire une posologie d'un traitement quel qu'il soit. Par exemple, un comprimé matin, midi et soir, c'est très contraignant. Faire ça tous les jours pendant un an, c'est très contraignant. Et donc, parfois, on a des patients qui viennent et disent « Oh, votre traitement n'a pas marché ». On leur demande « Mais vous l'avez bien pris ?» Ils disent « Oh, ben non, j'ai arrêté au bout d'une semaine ». Quoi.
Et sur les mesures de médecine préventive, pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de faire passer le message auprès de vos patients, Baptiste ?
Souvent, tant que la maladie n'est pas là, les gens se disent « elle n'existe pas ». Et puis quand elle arrive, ils se rendent compte que bah, oui, en fait, elle existe, mais c'est trop tard.
Michel Lejoyeux.
Oui, deux choses. D'abord, on raisonne en tout ou rien. On se dit « demain, j'ai une vie parfaite. Demain, je vais faire exactement la quantité d'exercice recommandée, manger sainement ». C'est pour ça que mon livre propose des petites expériences. Il faut vraiment, comme le faisaient les sages chinois, construire caillou par caillou. Et une toute petite expérience suffit. Puis la deuxième chose, c'est qu'on s'imagine qu'une vie saine est une vie triste. La réalité est l'inverse. Une vie saine est marrante. Une vie saine va donner plus de plaisir, plus d'accomplissement. C'est pas très drôle d'être obligé par un comportement ou de mauvaises habitudes.
Michel Lejoyeux, j'aimerais qu'on commence cette émission avec Hippocrate, qui peut nous inspirer ce matin. Tous les médecins font le serment d'Hippocrate à la fin de leurs études. Rappelez-nous quelques mots qui étaient Hippocrate.
Alors, Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité, statue formidable, quasi, on rêverait d'un statut comme ça aujourd'hui, une génération, je crois qu'ils étaient depuis 15 générations médecins, un statut entre la divinité, l'oracle et le médecin, et surtout, extraordinaire, un médecin qui dit, vous avez en vous, il le dit mot à mot, un pouvoir d'auto-guérison. Ne prenez pas trop de médecine, ne faites pas trop de médecine. Hippocrate le dit, et on a l'impression qu'on réinvente toujours les choses. Fais de ton aliment ta médecine. Donc, la vie quotidienne, les petites choses quotidiennes, tout ça a été inventé par Hippocrate.
L'une des grandes intuitions d'Hippocrate, c'est de nous dire que la santé d'un individu dépend autant de son environnement que de lui-même.
Bien sûr, et là aussi, environnement personnel, environnement relationnel, et puis la qualité de l'air. Hein, Hippocrate en parlait déjà. Nous, tout cet environnement va jouer. Il y a une sorte soit de contagion, soit au contraire de bénéfice.
Et pour Hippocrate déjà, c'est en limitant les interventions médicales que l'on va mieux. Et c'est une idée qui n'est pas toujours bien acceptée, même aujourd'hui en 2019.
Alors Hippocrate n'était pas père de la médecine, n'allons pas dire qu'il limitait complètement les interventions médicales, mais il disait l'intervention médicale doit être la plus proche possible de la nature.
C'est-à-dire ?
À l'époque d'Hippocrate, il y avait des chirurgiens qui pensaient qu'après une fracture, il vaut mieux trouver une autre forme que la forme précédente du membre, qu'il faut... Vous voyez, on vous trouve une forme idéale. Hippocrate disait le bon statut est le statut naturel. La médecine doit renforcer ce qui est de l'ordre du naturel.
Aline Perraudin.
Il y a peut-être quelque chose de dangereux dans ce discours de parler de super pouvoirs, de choses naturelles. Par exemple, les vaccins, c'est quelque chose qui permet de prévenir des maladies. Et il y a des gens qui tiennent exactement ce discours du naturel et qui sont anti-vaccins.
Bien sûr, mais c'est là où Hippocrate est le père d'une médecine scientifique, fondée sur les preuves. On n'imagine pas qu'Hippocrate aurait interdit à ses contemporains d'accéder à une mesure de santé. La médecine, c'est bien sûr utiliser toute la science, mais aussi utiliser sa nature. Et c'est dans cette capacité des deux, et puis si, pour répondre très précisément, évidemment que la question des vaccins, j'allais dire, serait même inenvisageable dans une logique de pensée hippocratique.
Alors l'un des grands principes de la médecine hippocratique, c'est la modération.
Oui, cette idée au fond que D'abord, primum non nocere. Vous savez, ce fonds d'Hippocrate, si on arrête de se faire du mal, on se fait déjà beaucoup de bien. Si on n'est pas obèse, si on ne va pas consommer trop d'alcool, si on ne va pas consommer trop de tabac, si on arrive à avoir une vie relativement modérée. Vous savez, moi je vois dans la vraie vie, des gens avec une cigarette à la bouche me dire... Est-ce que vous croyez aux polluants de l'environnement, à des choses extrêmement, aux radiations de quelque chose qui serait à quelques milliers de kilomètres de chez moi? Rappelons Hippocrate, il y a une échelle des risques. Quand on enlève les risques les plus importants, on va déjà beaucoup mieux.
Alors vous l'avez rappelé, hein, ce fameux adage hein, d'Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. C'est une intuition assez géniale. 2500 ans après, il faut dire qu'Hippocrate n'avait pas beaucoup de médicaments à sa portée à l'époque, évidemment.
Bien sûr, ça l'a beaucoup aidé, mais il avait aussi beaucoup de sagesse hein, à sa portée. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à ce que doivent être les études de médecine, il faut bien sûr de la science, et j'essaie de m'appuyer là-dessus autant que possible dans mon livre, mais il faut aussi une petite réflexion sur l'existence. Hein, il faut être capable d'être nourri. On a autant besoin d'un peu de philosophie, d'un peu de sagesse que de trop de médicaments, et c'est probablement un bon antidote à ça.
Frédéric Salmann.
Moi, je pense que effectivement, la question sur les vaccins est très intéressante. Parce que c'est pas un monde contre un autre. Les vaccins, moi, je suis complètement pour. C'est un progrès formidable. Et on pleure quand on n'a pas le vaccin pour une maladie. Mais en même temps, il y a ces progrès. Et puis, il y a d'autres réponses qu'il faut trouver parfois. Parce que, en nutrition, par exemple, il n'y a pas de médicament pour maigrir. Des patients viennent me dire, est-ce que vous pouvez me donner un médicament pour maigrir? Non, il n'y en a pas. Mais il y a beaucoup de techniques qui permettent de réguler son poids. Vous savez, je vous ai montré avant l'émission une de mes photos.
Oui.
Il y a 25 ans, je faisais 27 kilos de plus. Je les ai perdus, jamais je les ai retrouvés. Donc le chemin, je l'ai fait. Et en fait, c'est justement près d'une centaine de coupes fins naturelles, les uns après les autres, qui vont vous permettre de reprendre la main. Ça va te prendre du chocolat noir à 100% parce que ça chute la gréline.
C'est pas bon ça, le chocolat à 100%.
C'est très mauvais, mais très efficace.
Je vois pas l'intérêt, là, Frédéric Salmann, de manger un carré de chocolat à 100%.
Quand vous avez faim, au lieu de vous jeter sur des bêtises et une orgie calorique, eh ben, je vous dire que ça donne un coup de frein et vous reprenez la main tout de suite. C'est formidable.
Faisons un peu de science-fiction, Michel Lejoyeux. Que ferait Hippocrate s'il devenait notre médecin généraliste, notre médecin traitant en 2019? Quels seraient ses grands principes de bon sens?
Alors, ces grands principes de bon sens seraient vraiment de vous convaincre que vous avez en vous ces possibilités et de vous rappeler des choses très simples. L'activité physique.
Hein, fameuse promenade hippocratique.
La fameuse promenade hippocratique.
Il en recommandait trois, je crois, hein, c'est ça, trois types de promenades, trois sortes de promenades après chacun des repas.
Hein. Absolument. Et là encore, on pourrait dire aujourd'hui, en pleine conscience, c'est-à-dire avec la conscience de la nature, en se promenant avec des gens agréables ou avec soi, avec un dialogue important, pas du tout là encore dans l'idée de se maltraiter. Et puis quelques activités fort sympathiques, une petite sieste après le repas, d'une quinzaine de minutes, l'activité sexuelle, des bons repas. Là encore, Hippocrate n'est pas du tout ne prône pas, et la médecine du bon sens actuelle ne prône pas l'austérité, mais vraiment des moments de plaisir, des moments qu'on va investir très fort.
Aline Perraudin.
Malheureusement, la sieste est encore pas bien vue au travail. J'ai vu un sondage, donc c'est bon pour les retraités, mais je crois que pour les jeunes actifs, ça va pas être possible encore.
Bonjour Jean-Michel, vous appelez de Toulouse, bienvenue dans l'émission.
Merci, bonjour.
Alors vous avez fait deux arrêts cardiaques, c'est ça?
Alors, pas des arrêts cardiaques, mais j'ai eu des alertes cardiaques effectivement assez importantes en septembre et novembre 2017. Mm-hmm. Et en fait, tout simplement mes artères qui se bouchaient, et mes artères secondaires notamment qui sont inopérables, parce que pour poser des ressorts, mm-hmm, faut que ça fasse plus de 7 mm, et moi ça faisait 5 mm. Donc plus une qu'on a découvert atrophiée, donc voilà.
Ces accidents cardiaques que vous nous avez dit hors antenne ont provoqué chez vous une sorte de dépression?
Ah, pas une sorte, complètement. Dans le sens où quand on m'a mis sous bêta-bloquant, sous IEC, sous fluidifiant, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je suis papa solo avec 4 enfants, j'ai toujours travaillé toute ma vie, et je comprenais pas ce qui se passait, et ça m'a plongé dans un espèce d'état de tristesse. Mon psychiatre, que je suis parti voir, m'a dit, il faut à tout prix que je te médicamente parce que sinon tu vas décrocher. Donc j'ai été sous antidépresseur et sous anxiolytique, et ça m'allait pas du tout. Je sentais bien, si vous voulez, que je ne tombais pas, mais que je n'arrivais en aucun cas à remonter. Et c'est mon médecin généraliste de Toulouse, que j'adore, qui est un pote, qui est médecin du sport, et qui m'a dit, écoute, tu dois m'aider. tu dois m'aider et tu dois changer de rythme de vie, tu dois changer ta façon de faire. Et c'est pour ça que je voulais témoigner ce matin, parce que tout ce que dites de vos intervenants, je suis un peu ému, excusez-moi.
Non, allez-y,
mais
allez-y.
Tout ce que disent vos intervenants, c'est exactement ça. On nous prévient pas assez, on nous dit pas assez de l'importance d'une hygiène de vie meilleure pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas. Et une fois que moi j'ai repris ma vie en main, c'est-à-dire que je me suis mis à faire beaucoup de sport, je change de rythme de vie où j'ai quitté mon travail pour trouver quelque chose de plus en adéquation avec moi, je me suis remis à avoir une hygiène alimentaire plus simple, plein de choses comme ça, eh bien ça y est, au mois d'octobre, ma cardiologue m'a dit « Vous savez quoi Jean-Michel, on va faire un pari, je ne vous médicamente plus. » Donc j'ai arrêté les IEC, j'ai arrêté les bêta-bloquants, je fais hyper attention à ce que je mange, enfin tout ça. Mais pour autant, une dame tout à l'heure, ou un monsieur, je sais plus, a dit qu'en fait c'est pas fun du tout d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Ce qui est plutôt fun, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de se retrouver en forme. Et c'est exactement ça dont je voudrais témoigner, et dont je témoigne maintenant d'ailleurs. Sur Facebook, avec des amis, je leur dis, mangez mieux, faites du sport, soyez plus en adéquation avec vous, parce que tout ça fait que, eh bien, on peut s'en sortir. Et là, je n'ai plus aucun médicament, plus rien du tout. Mes enfants me retrouvent, je suis joyeux. J'ai l'activité sexuelle débordante.
Grand bien vous fasse, grand bien vous fasse, Jean-Michel. Témoignage très éclairant, parce que c'est une crise hein, qui a créé une révolution dans le comportement de Jean-Michel, hein, Michel Lejoyeux.
Oui, d'abord, deux choses. C'est une très belle histoire que nous transmet Jean-Michel, dont notamment l'idée, et c'est prouvé par la génétique, qu'on peut déprimer et qu'on peut s'en sortir. Moi, je tiens vraiment à dire ça. Et on a même montré que ceux qui étaient capables de déprimer, ceux qui avaient les gènes de la déprime, ceux qui étaient capables de ne pas être, comme on dit, dans le déni, étaient finalement aussi ceux qui avaient les plus grandes capacités de rebondissement.
Frédéric Salmane, je m'adresse au cardiologue que vous êtes. Il paraît que vous prescrivez assez peu de médicaments.
Oui, j'en prescris quand j'ai pas le choix, tout simplement. Quand je peux pas faire autrement. Mais.
Sur le témoignage de Jean-Michel.
Absolument. Moi, je dirais une chose. Jean-Michel a prononcé le mot sport. Et pour tous les gens qui nous écoutent, si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer et maladies cardiovasculaires. Attention, les 20 premières minutes, on brûle du sucre. Après, on commence à brûler les mauvaises graisses et on libère, tenez-vous bien, 1004 molécules protectrices comme l'irisine, un vrai bouclier. Mais ces molécules n'ont une durée de vie que de 24 heures. Autrement dit, quand des gens me disent « moi je fais du sport le week-end », je dis « vous lavez les dents que le week-end ». C'est obligatoire et je peux vous prouver que tout le monde a le temps de le faire.
Merci beaucoup Jean-Michel pour votre joli témoignage ce matin. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions au docteur Frédéric Salmane et à Michel Lejoyeux au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour, je lui souhaite un très bel anniversaire Alexia, très bel anniversaire. M'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince. Spéciale dédicace pour l'anniversaire de notre collaboratrice Alexia Lacour, Justice Dance.
Comment ça va ?
Fatigué, j'ai envie de dormir.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
10h28, second volet ce matin de notre émission consacrée à la médecine du bon sens, une médecine préventive relativement simple à mettre en œuvre avec les docteurs Frédéric Salman et le professeur Michel Lejoyeux. Et Baptiste Beaulieu, notre médecin écrivain, vous aviez quelque chose à ajouter au témoignage de notre auditeur Jean-Michel Baptiste en duplex de Toulouse.
Oui, je le trouvais formidable Jean-Michel, je me dis j'aimerais tellement que tous mes patients soient comme lui, c'est-à-dire un patient à qui on explique les mesures de prévention et qui nous dit ok banco, je fonce tout de suite. Nous, on a plutôt parfois des patients qui nous disent « Oui, d'accord, j'ai du cholestérol. Oui, d'accord, vous venez de passer un quart d'heure à m'expliquer les mesures hygiéno-diététiques que je dois adopter. Mais est-ce que vous auriez pas plutôt un petit cachet à me donner qui ferait le même boulot que ces mesures-là pour que je puisse continuer à manger ma charcuterie ?» Et donc, c'est vrai que c'est parfois compliqué d'obtenir ce qu'on appelle la compliance du patient.
Michel Lejoyeux.
Oui, une petite étude récente, pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Michel, sur les effets de l'exercice sur la sensation de douleur. Vous trempez vos mains dans l'eau glacée, c'est une expérience qui vient d'être montrée. Au bout de quelques secondes, vous avez absolument besoin de les sortir parce que c'est douloureux. Si vous avez fait 30 minutes d'exercice physique avant, vous pouvez garder une moitié de temps en plus vos mains dans l'eau glacée. Et pourquoi on vient de le montrer ? Parce que vous augmentez vos endorphines. Et si vous prenez un bloqueur des endorphines, l'effet disparaît. Donc on vient de démontrer un effet d'augmentation des endorphines. Donc le meilleur antalgique quand vous avez mal, ça va être d'aller bouger 30 minutes et c'est une chose qui vient de sortir. Je vois que mes collègues
mais c'était pour abonder dans votre sens. On avait déjà vu ce genre d'études chez des grands sportifs et notamment que ça a baissé l'activité physique, a baissé le seuil de la douleur et c'est bon aussi notamment pour le dos parce que absolument. Des gens qui sont sédentaires ont souvent mal au dos et en bougeant, ils auront beaucoup moins mal.
Et là, c'était pas des grands sportifs, c'était des personnes, si j'ose dire, normales. 30 minutes d'activité physique, on a un effet, on se fait un petit shoot aux morphines endogènes.
Frédéric Salman.
Ça me fait très plaisir parce que tous les matins, moi, je fais une heure de gym à fond et après, je m'offre une douche froide 3 minutes. C'est extraordinaire parce que d'une part, bien sûr, ça libère des endorphines, je vois la vie en rose toute la journée. En même temps, ça booste l'immunité et je perds 250 calories parce que je brûle de la graisse brune. C'est un vrai frisson minceur.
Vous avez vu comme la médecine évolue. Avant, c'était les psychiatres qui défendaient la douche froide et on disait qu'est-ce que ce sont que ces pratiques tortionnaires. Vous imaginez si le psychiatre que je suis avait prôné la douche froide, vous m'auriez fait sortir du studio. Quand c'est le docteur Salman, vous l'écoutez sérieusement.
Question de France, pourriez-vous me dire pour quelle raison, malgré une hygiène de vie sérieuse, végétarienne, 100 km de marche tous les jours, j'en suis arrivé à faire des chocs anaphylactiques car je suis allergique. Michel Lejoyeux.
Les réactions allergiques n'ont rien à voir avec le mode de vie. Puis une autre chose qu'il faut savoir, tout ce que nous expliquons là, ce sont des données statistiques. C'est-à-dire que quand vous avez un mode de vie sain, vous diminuez d'un pourcentage considérable le risque de toutes les maladies. Mais diminuer d'un pourcentage ne veut pas dire garantie absolue. Et méfions-nous de la différence entre les statistiques qu'on observe sur des grandes populations et le fait que certaines personnes, pour des raisons qu'on ne va pas forcément comprendre, ne vont pas autant être protégées que d'autres par ces activités.
Extrait de la guerre du feu de Jean-Jacques Hano, Michel Lejoyeux dans votre médecine du bon sens. Vous nous proposez de prendre modèle sur les hommes et les femmes de la préhistoire. Une longue période, peu de textes, on sait finalement peu de choses, me confiait récemment le paléontologue Pascal Pic. Ces hommes préhistoriques toutefois nous apprennent à avoir confiance en nous et à nous adapter.
Absolument. Et on découvre quand même, alors on ne sait pas beaucoup de choses, mais on sait par exemple quels gènes ont persisté de la préhistoire à nos jours. Et on voit qu'un des gènes de protection, un des facteurs chromosomiques de protection, est ce qu'on appelle la recherche de nouveautés et la recherche de sensations. Donc quand on est capable de sortir de sa zone de confiance, de faire des choses nouvelles, on a plutôt un comportement de protection.
Et pour vous, Michel Lejoyeux, la potion magique de la préhistoire tient en trois mots, de façon schématique évidemment, nouveauté, conquête, autonomie.
Nouveauté, conquête, autonomie, oui. Et puis j'ai envie de vous rajouter trois autres mots encore plus concrets et de super pouvoirs qu'on peut utiliser aujourd'hui. La marche, évidemment, hein, on y revient, mais les hommes préhistoriques se sont mis debout. Le cerveau s'est transformé, le cerveau de l'homme préhistorique s'est transformé à partir du moment où il a accédé à quelque chose qu'on n'est pas loin de perdre aujourd'hui, qui est le bipédisme et la marche. On regarde le monde différemment. Deuxième mot, la mastication, vous avez vu, ils sont pas forcément très beaux. Enfin, moi, je ne suis pas un paléontologue, mais ils ont des très très gros maxillaires, les femmes et les hommes de la préhistoire. Donc, ils mâchaient des aliments consistants. Et aujourd'hui, on redécouvre ce pouvoir de la mastication. Là encore, pour avoir moins faim et pour plus profiter des aliments. Et puis, mon collègue et ami, le docteur Salman, propose des aliments. Moi, je vous en propose un. C'est le troisième M de la préhistoire. C'est la menthe. On a découvert, de manière très étonnante, autour des tombes des hommes préhistoriques, des plants de menthe. Ils utilisaient probablement beaucoup la menthe. Et aujourd'hui, les chercheurs en neurobiologie montrent que la menthe va réguler l'appétit et calmer le comportement. Quelques feuilles de menthe dans un verre d'eau. Là encore, c'est une expérience. En la faisant, vous vous rappellerez votre nature préhistorique profonde et vos super pouvoirs de la préhistoire.
Et vous nous rappelez dans votre médecine du bon sens qu'il est dangereux d'être trop sage. Et vous préconisez la règle des trois tiers. Dans sa vie quotidienne, il est bon de répartir des moments que vous appelez de capitalisation, des moments de consolation et des moments de nouveauté.
Bien sûr, et c'est ce qui est...
Qu'est-ce que vous voulez dire par des moments de capitalisation, des moments de consolation? La nouveauté, on comprend, mais sur la capitalisation et sur la consolation?
La capitalisation, c'est ce qu'on fait quand on recommence une activité dont on sait qu'elle réussit. Hein, on a le droit d'avoir nos zones de confiance quand même. Là encore, c'est ce que je vous disais au début, ne raisonnons pas en tout ou rien. On va pas tous les jours changer tout à sa vie. Donc, on peut capitaliser sur ce dont on sait que ça nous fait du bien. On peut aussi, et ne l'oublions pas, on a le bien-être, la bonne humeur, ça dure jamais toute la journée, ça dure jamais toute la vie. On a aussi des moments de consolation, et j'insiste vraiment là-dessus, vous savez, les hommes préhistoriques qui n'accédaient pas à la dépression étaient ceux qui étaient complètement euphoriques pendant l'hiver et qui allaient être massacrés par les bêtes sauvages. Donc, notre capacité à nous replier quand ça va pas bien, à accepter l'idée qu'on va mal, est un indice de bonne santé, à condition que ça ne dure pas.
Alors vous parliez de la bipédie, Michel Lejoyeux. Vous, Frédéric Salman, vous affirmez que se tenir droit booste notre puissance intellectuelle. Des chercheurs de San Francisco ont découvert qu'un simple changement de posture augmentait notre puissance intellectuelle.
Absolument, sur les étudiants, on est plus performant quand on se tient bien droit que quand on est avachi. Les énergies, tout simplement, fonctionnent mieux. Et c'est des tas de petits gestes comme ça qui vont faire qu'on va optimiser notre capital cérébral aussi, de penser plus vite, plus rapide. Et surtout, le fait, vous savez, ce qui fait qu'on est en bonne santé dans la prévention, c'est le mouvement. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement, physique ou intellectuel. Je le rappelle, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Donc, c'est cette agitation qui va faire qu'on est bien.
Michel Lejoyeux.
Oui, deux autres petits secrets, deux autres petits super pouvoirs de la préhistoire. Le bavardage. Hein, on s'est aperçu que les groupes se constituaient en bavardant. C'est quoi le bavardage? C'est transmettre des émotions de manière directe, sans essayer de convaincre l'autre et en l'écoutant. Donc, réhabilitons nos moments de bavardage. Et un autre trait de caractère qui est apparu comme un trait protecteur, c'est l'extraversion. Donc, il vaut mieux être ouvert aux autres, raconter des blagues, même si elles sont pas très bonnes, et aller vers l'autre. Finalement, ce qu'on va perdre, éventuellement par quelques maladresses relationnelles, n'est rien à côté de ce qu'on perd quand on garde pour soi ses émotions, ses pensées, et que l'autre se demande ce qu'on pense.
Du point de vue de la génétique, nous sommes encore des cueilleurs-chasseurs, qui avons besoin, vous le dites, de bouger.
C'est vital, le mouvement. C'est essentiel. Quand on bouge pas, on prend des risques. Vous savez, si je plate vos deux jambes pendant 2 mois pour qu'elles se reposent, quand je casse le plâtre, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. Et justement, c'est cette notion de mouvement qui est essentielle. Et Michel soulignait l'aspect de la nouveauté. C'est vrai que on pensait qu'on naissait avec un stock de neurones. Et petit à petit, on en perd, on devient gâteux. En fait, ce qui forme des nouveaux neurones, c'est qu'on fait des choses qu'on n'a jamais faites.
Baptiste Beaulieu,
Oui, ça me paraît très important là tout ce qu'on vient de dire sur le sport évidemment, mais sur le bavardage, parce que c'est une des données que je vois avec mes patients qui sont en situation de dépression par exemple. Dès qu'ils se remettent à pratiquer une activité physique et sportive, ce qui est difficile hein, quand on est déprimé, mais ce qui est fondamental, et que ils prennent sur eux d'accepter qu'ils sont malades et d'en parler autour d'eux, de chercher de l'aide, de discuter avec des amis, avec des professionnels, ben, leur état s'améliore quand même tout de suite beaucoup plus rapidement quoi. Le sport et le bavardage, c'est quelque chose de fondamental.
Et le bavardage, ça s'entraîne. Il y a aujourd'hui, j'en donne des exemples dans mon livre. Ça s'entraîne à la machine à café. Il y a des gens qui savent pas bavarder. Donc, si vous ne savez pas bavarder, ouvrez mon livre, on vous donnera des moments. Il y a des gens avec qui il est pas très facile de bavarder, donc on peut vous entraîner à bavarder.
Aline Perraudin.
Moi, je voulais revenir sur le sport pour dire que à tout âge, un bénéfice, on peut commencer même tard, parce que il y a encore quelques années, on disait mais vous êtes trop vieux, vous pourrez pas refaire du muscle, eh bien c'est faux. Même à 90 ans, on peut augmenter sa masse musculaire.
Et rappelons-nous que chez les personnes âgées, si on veut faire de la prévention des fonctions cognitives entre une personne âgée qui est devant ses mots croisés, assis, toute ratatinée, à se dire « il faut absolument que je termine mon exercice », et celui qui va se lever, qui va bouger, qui va bavarder, qui va faire preuve d'extraversion, celui qui augmente le plus un facteur très important, qui est le facteur de croissance neuronale, c'est celui qui bouge, qui communique. Donc là encore, il y a un effet médical, biologique, avec ce facteur dont on est en train de découvrir l'importance, qui est le facteur de croissance des neurones.
Aurore nous dit, j'ai lâché mon clavier d'ordinateur et je viens de me faire une danse, un lâcher prise complet sur justice, que ça fait du bien, il faut savoir s'écouter, savoir écouter son corps.
Oui,
vous n'avez pas dansé, vous, pendant le disque, Michel Lejoyeux?
Non,
j'attendais à ce que vous me fassiez une petite chorégraphie.
Ouais, j'ai peur qu'on mette un peu de désordre, là, que France Inter, envoie un petit peu de désordre chez ses auditeurs, mais ça fera du bien, ça.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui, je voulais vous raconter comment, l'autre jour, je prends un train avec la pétillante et délicieuse romancière Lorraine Fouché. La longueur du trajet aidant, Lorraine se confie sur sa vie. Aujourd'hui, elle a 62 ans et elle a écrit 20 romans. Moi, j'en ai écrit 4, ça me paraît le bout du monde. Bref, elle a écrit 20. Pourtant, Lorraine m'explique avoir commencé comme moi. C'est l'année de ses 18 ans, elle vient de passer son bac, elle veut devenir romancière, mais son père les quitte brutalement. Un mois après son bac, un infarctus. La veille de sa mort, au téléphone, il lui dit que médecin, c'est le plus beau métier du monde et que c'est le métier qu'il veut pour sa fille. Alors, même s'il n'est plus là, Lorraine, elle respecte son vœu. 8 ans d'études et une fois son doctorat en poche, elle embauche à SOS Médecin où elle soigne la nuit, le jour, aux quatre coins de Paris. Je n'étais pas malheureuse, me dit-elle, mais je n'étais pas heureuse non plus. Simplement, je n'étais pas au bon endroit de ma vie. Un dimanche matin, elle est appelée pour rédiger un certificat de décès. Elle accepte, roule jusqu'au bas d'un immeuble, monte, entre dans la chambre, examine avec douceur et délicatesse la dépouille de la patiente. Je me souviens qu'à ce moment de notre discussion, Lorraine regarde le paysage coloré qui passe à toute vitesse derrière la fenêtre du train. Elle inspire profondément et me murmure son secret. « J'ai fait le certificat de décès de Marguerite Duras ». Elle me dit ça et je sens bien ce que ce corps a suscité en elle de prise de conscience. Elle me dit « J'étais dans cette pièce, avec le visage sans vie et sans couleur de cette femme qui, toute son existence, avait écrit et vécu librement en se moquant du conformisme. J'étais dans cette pièce, seule avec Marguerite Duras morte, et j'ai su, oui, c'est un peu bizarre ce que je te confie là, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant pour moi, que je voulais être libre de vivre ma vie, que j'y avais droit, que c'était même pour cela que j'étais ici, pour comprendre cela, pour entendre cela, le chuchotement de la liberté. » Un mois après, j'ai posé mon stéthoscope et je suis devenue romancière à plein temps. Avant, je me battais comme une lionne pour sauver tous mes patients. Maintenant, je peux tuer mes personnages de papier ou les réanimer à l'envi. Avant, je soignais les gens. Maintenant, j'espère que mes romans les aident à vivre. Elle rayonne de joie en lisant ça. Son 20e roman est sorti le 30 mars aux très belles éditions Héloïse d'Ormesson. Il s'appelle, et ce n'est pas du tout fait exprès pour cette chronique, je le précise, il s'appelle Tout ce que tu vas vivre.
Merci Baptiste Beaulieu. On peut retrouver toutes vos chroniques en vidéo sur le site de France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et bien sûr sur votre blog. Alors voilà, allez, nous attendons toutes vos questions. Questions au professeur Michel Lejoyeux et au docteur Frédéric Salmann au 01 45 24 7000.
Une de perdue, autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine.
qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des fuites même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Et là t'es où, tu fais quoi, t'écoutes mes textes. J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais. Pourquoi ça m'intéresse. Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein. Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je vais me finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclatée, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille.
Roméo Elvis interprété malade.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart, second volet de notre émission consacrée à la médecine du bon sens, une médecine préventive relativement simple à mettre en œuvre avec le docteur Frédéric Salmane et le professeur Michel Lejoyeux. Orlan s'adresse à vous, Frédéric Salmane. Je suis en train d'écouter votre émission. Je suis assez fâché d'entendre encore une fois qu'on laisse penser que le surpoids soit une question de choix. Perdez du poids et vous verrez, vous irez mieux. Ça culpabilise, nous dit Orlan.
Oui, c'est très important parce que quand on a un excès de poids, on a du mal à perdre ses kilos, j'en sais quelque chose. En même temps, il faut le faire parce qu'on va perdre des années de vie en bonne santé. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus, c'est pas rien du tout. Donc il faut mettre le paquet. Alors, c'est pas une recette magique de perdre du poids. C'est beaucoup de petites choses. C'est un exemple très concret. Si vous prenez du sucre dans votre café, et moi, je vous dis, arrêtez. Ni sucre, ni édulcorant. Pendant 3 semaines, beurre, c'est pas bon du tout. Au bout de 3 semaines, quand je vous dis, allez, on vous sert un café sucré, vous pouvez pas le boire, trouvez ça écœurant. Le seuil sucré dans le cerveau s'est modifié. Et naturellement, vous n'êtes plus du tout au régime. Il y a d'autres exemples aussi. C'est de savoir choisir des aliments. Le poisson, c'est bon pour la santé, oui. Mais si on prend des sardines, 200 calories, 3 sardines, c'est pas cher du tout, c'est plein d'oméga 3. Mais surtout, c'est des aliments retard, ça reste 9 heures dans l'estomac. Ça veut dire qu'on va pas grignoter du tout. Donc, des choix simplement de le bon poisson à choisir, les bons légumes, c'est en apprenant tout ça, on perd vraiment du poids efficacement, je vous le garantis.
Michel Lejoyeux, je m'adresse au psychiatre. Plus largement, il faut aussi se poser des questions davantage psychologiques aussi sur les raisons qui font qu'on grossit, qu'on n'arrive pas à perdre du poids, etc. C'est aussi important, ça.
Oui, je suis très prudent sur ce sujet-là. Et très souvent, on va pas en trouver. Je ne voudrais pas avoir une sorte de culpabilisation psychologique des personnes en surpoids.
On parle de kilos émotionnels parfois.
Oui, mais en réalité, alors ça existe évidemment, tout existe, mais il n'y a pas une sorte de chose systématique où le surpoids serait une sorte d'expression d'un trouble mental caché.
Aline Perraudin.
Peut-être aussi on a perdu l'habitude d'écouter son corps, c'est-à-dire d'écouter vraiment sa sensation de faim, et beaucoup de plus que des kilos émotionnels. Souvent, on ne mange pas par faim, mais par obligation, parce que c'est l'heure. Donc peut-être déjà se poser la question, est-ce qu'on a vraiment faim avant de manger ?
Et puis de manger en pleine conscience également.
Il y a une chose importante, on a fait une découverte sur la faim incroyable. Ça date d'il y a quelques mois. Quand aujourd'hui, on est dans un monde... Un symptôme, un médicament. J'arrive pas à dormir, un somnifère. J'ai mal au dos, vite un antalgique. J'ai faim, vite je mange. Eh bien, on a découvert que la faim, quand on a faim, on stimule justement la gréline, l'hormone de l'appétit. Mais cette même gréline, elle a d'autres actions. Elle stimule l'autophagie. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nettoyage de nos vieilles cellules malades, mortes, mal formées. Autrement dit, c'est comme une cure de détox express, on se purifie et en plus ça booste l'hormone de croissance. Fin 20 minutes, vous faites un bien fou.
Bonjour Marie-Laure, vous appelez Dumont, bienvenue.
Bonjour.
Alors on écoute votre témoignage.
Eh bien moi je vous appelle pour un problème un petit peu bizarre, vous allez dire. Ça fait 5 ans que je suis végétarienne, j'ai supprimé le gluten et les produits laitiers pour l'arthrose. C'était sensationnel, j'ai 80% d'arthrose en moins, de douleur en moins. Mais par contre, ça m'a fait un petit peu maigrir. Et maintenant, je fais 42 kilos pour 1m59. Et même en mangeant, je fais une collation à 10h et à 17h. Je n'arrive plus à grossir.
Mais vous êtes en bonne santé ?
Très.
Bon.
Mais oui, mais vous savez, on parle toujours du regard des autres sur les gens en surpoids. Sur les gens maigres, je peux vous dire que c'est la même chose.
Aline Perraudin.
Je suis aussi végétarienne. Vous mangez des oléagineux ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Et j'ai gardé les œufs et les petits poissons, sardines et maquereaux.
Michel Le Joyeux.
Non, je crois qu'effectivement, si c'est bien supporté, moi je n'ai pas d'avis là-dessus.
Frédéric Salman.
Bah, écoutez, vous savez, si vous sentez bien, ceci dit, quand il y a une perte de poids importante, il faut toujours faire un bilan chez votre médecin traitant, parce qu'il peut y avoir d'autres causes aussi.
Merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir appelés. Alors, il s'agit d'une musique de la Chine traditionnelle, de la dynastie Tang, 618-907 après Jésus-Christ, donc, Michel Le Joyeux. Parce que dans votre livre, La médecine du bon sens...
S'il y a des questions sur les dates, je vais demander une aide du jury. Hein.
Dans votre médecine du bon sens, vous puisez dans quelques principes de la médecine chinoise. Quels sont les grands principes de la médecine chinoise, de façon toujours un peu schématique, peut-on utiliser dans notre vie quotidienne pour prévenir certaines maladies, certaines pathologies ?
Oui, il y a vraiment des super pouvoirs venus de la Chine. Le premier, c'est quand même l'harmonie corps-esprit, hein, cette absence de dualisme entre ce qui relève du corps et ce qui relève de l'esprit. Et on peut faire des tout petits exercices pour reconnecter son corps et son esprit. Moi, j'en propose un dans le livre que j'appelle le drone corporel. Vous imaginez un drone passant au-dessus de votre corps, très très lentement, et du coup, vous allez visualiser toutes les parties de votre corps très très tranquillement. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose qui est un peu un sujet de sagesse. On se fixe tous des objectifs considérablement difficiles. Il faut que j'ai tant de réussites, tant d'actions. Par exemple, quand on part en vacances, on veut avoir vu un nombre de villes importantes, on veut avoir eu un nombre d'activités importantes. Et bien finalement, ce qui est plus important, c'est de se fixer des valeurs. C'est de se fixer des moments qui vont être riches de sens. Et c'est tellement vrai. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas que de la Chine classique. C'est qu'on vient de s'apercevoir qu'aujourd'hui, ceux qui se fixent le plus d'objectifs, on l'a fait avec un exercice de mathématiques. Vous voyez, on pose des petites énigmes mathématiques à des personnes. Ceux qui se fixent le plus d'objectifs sont les plus déprimés. Par contre, ceux qui se fixent des valeurs vont plutôt aller mieux. Et puis on a parlé beaucoup d'alimentation. Il y a une étude chinoise très récente qui a comparé chez des dames chinoises le fait de manger de manière classique, c'est-à-dire avec une alimentation riche en riz, riche en sucre lent, ou de manger de manière caricaturalement occidentale avec des sodas, des aliments gras. Et on a montré au bout de 6 mois un meilleur état psychologique, une meilleure perception de la vie et un meilleur état physique.
Et vous recommandez quelques exercices simples de respiration, des exercices fondamentaux que l'on retrouve bien évidemment dans la pratique du tai chi ou du qigong.
Bien sûr. Et puis aussi le yin et le yang. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Il y a un centre anglais qui vient de s'ouvrir sur les troubles du sommeil et qui dit
pour traiter les troubles du sommeil, il faut appliquer le principe du yin et du yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous avez des activités dans la journée, plus vous allez vous endormir facilement. Ils sont allés très loin, ces chercheurs. Ils ont proposé des choses très concrètes. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien dormir? C'est certainement pas de se mettre dans son lit et d'espérer que le sommeil vous foudroie brutalement. Il y a des choses qui ont été montrées. Lire dans une langue étrangère. Parce que finalement, ça va mobiliser des capacités intellectuelles et cognitives particulières. Lire un roman historique. Faire dans sa journée, c'est ce qu'on est en train de faire là, une rencontre riche de sens, une rencontre qui va ouvrir sur le sens, tout ça va permettre là aussi de mieux dormir. On ne dort bien que si on s'est fatigué et stimulé dans la journée.
Et en effet, la place du sommeil est fondamentale dans la médecine du bon sens, Frédéric Salmann. Santé publique France a récemment publié un rapport alarmant sur le fait que les Français dormaient de moins de 7 heures, avec des effets délétères sur notre santé. Une forte dette de sommeil peut avoir un impact très fort sur notre santé. À terme, un risque accru d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2, d'obésité, de cancer.
Quand on manque de sommeil, on met sa santé en jeu. Donc moins de 7 heures, c'est vraiment un problème. Et la qualité du sommeil compte aussi. Quand on se réveille souvent la nuit, il faut chercher les causes, parce que le sommeil va être assuré de mauvaise qualité. Bien sûr, il faut le noir complet dans sa chambre. Si on ne l'obtient pas, mettre un masque, parce qu'une toute petite diode, ça baisse la qualité. Il faut qu'il fasse bien frais et dormir nu, c'est important aussi. Et aussi chercher les raisons pour lesquelles les gens se lèvent la nuit. Si c'est un problème parfois de prostate, ça peut être un problème d'anxiété, mais il faut travailler ça, parce que plus le sommeil est de qualité, mieux on a une bonne santé.
Question de Mathilde de Brest, que faire pour se rendormir en cas de réveil nocturne?
Très simple, d'abord.
Ne pas rester dans son lit, ça peut paraître bête comme chou, mais...
Se lever un petit peu, ouais. Tout simplement, ça fait du bien. Parfois, simplement se mettre... Il y a une technique très simple, c'est le froid qui fait dormir. Mais moi, je conseille de garder, par exemple, un gant de toilette au frigo, au congélateur, vous le mettez sous la nuque et vous verrez, ça baisse la température, on s'endort.
Mais mieux vaut ne pas rester dans son lit. Il faut par exemple s'asseoir dans un canapé, prendre un livre, une revue. Et vous recommandez également d'écouter un bruit blanc. Qu'est-ce que c'est?
Oui, tout simplement, vous avez un bruit blanc, c'est par exemple celui que peut faire le bruit d'un ventilateur, d'un appareil de clim. Et ces bruits ont une capacité à endormir plus facilement. Il y a plein de petites choses comme ça, j'explique ça dans le livre, qui permettent de s'endormir facilement et surtout naturellement, sans médicaments. Il faut les éviter. Il y a des liens avec Alzheimer qui ont été découverts. Je ne suis pas vraiment pour les somnifères.
Michel Lejoyeux, quel est l'impact du manque de sommeil sur notre humeur à moyen ou long terme? Est-ce que les risques de dépression sont plus élevés en cas de forte dette du sommeil?
Alors, ça peut être une cause ou une conséquence. Quand on est déprimé, on dort mal et effectivement, les troubles du sommeil exposent à la dépression. N'oublions pas que pour s'endormir, il faut apprendre quelque chose qui est essentiel, qui est le lâcher prise.
C'est-à-dire?
On ne s'endort jamais.
J'entends souvent cette expression, lâcher prise.
Je vous donne un exemple. C'est l'exemple du chauffeur d'autobus. Qui est un exemple qui est totalement nourri de nos super pouvoirs chinois. Vous avez, quand vous êtes un chauffeur de bus, vous avez des gens qui rentrent dans votre bus et qui sont sympathiques, et puis de temps en temps des gens qui rentrent dans votre bus et qui sont antipathiques. C'est exactement pareil dans notre pensée, dans notre cerveau. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Qu'est-ce qui fait le chauffeur de bus? Il continue. Il sait qu'il va rentrer des personnes ou des émotions agréables ou désagréables. Il s'est fixé quelque chose qui est son objectif. Et il continue donc à s'imaginer un peu comme un chauffeur de bus. C'est une métaphore qui peut tout à fait vous aider.
Et il est bon de cultiver son sens de l'humour. Ça permet de prendre la distance face aux situations désagréables et de relativiser les vicissitudes de la vie.
Bien sûr.
Mais tout le monde ne l'a pas, ce sens de l'humour. Comment on le cultive?
Alors, je donne même dans le livre de regarder, par exemple. Vous savez, une des choses qui fait que les gens n'ont pas le sens de l'humour, c'est ce qu'on appelle la phobie du rire. Quand ils voient quelqu'un rire en face d'eux, ça leur fait peur. Ils se disent, tiens, si vous êtes en train de rire, c'est que vous êtes menaçant. Quelquefois, on peut simplement regarder des vidéos de personnes en train de rire et s'apercevoir que c'est quelque chose de tout à fait sain.
Alors, Frédéric Salmann, pour vieillir jeune, vous l'écrivez, il faut s'y prendre assez tôt, si possible à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, on ne doit plus manger ni boire comme avant.
Bien sûr que non, parce que si vous voulez... Regardez, si vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 40 ans et qui roulent tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, c'est de l'acier. Et nous, quand on mange, c'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'on fait travailler le foie, les reins, des hormones, des enzymes. C'est une vraie machine. Et donc, c'est pour ça que je propose aussi le jeûne séquentiel, c'est d'être capable, pendant 14 heures, quand il n'y a pas de contre-indication, de simplement boire de l'eau, des tisanes, etc., et de ne pas manger. Et ce jeûne séquentiel lutte contre notre obsolescence programmée, laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Et c'est essentiel.
Michel Lejoyeux, pourquoi vous préconisez d'écouter Mozart, et en particulier la sonate en ré majeur?
Alors là, il est en train de se passer des choses extraordinaires. On est en train de spécialiser nos deux hémisphères. L'hémisphère sérieux, l'hémisphère gauche qui pense, l'hémisphère droit de l'émotion, vont chacun retrouver leur fonction. On est en train de se concentrer sur l'instant présent. On fait un exercice médical et psychologique. Il y a des manières un petit peu plus précises de le faire. Et si vous prenez... Allez, je vous fais une ordonnance. 10 minutes de Mozart, le soir, détendu, pas en fond sonore, vous allez avoir un effet tout à fait impressionnant.
Merci beaucoup Michel Lejoyeux. La médecine du bon sens est publiée chez Lattès. Merci Frédéric Salmann. Vital est publié chez Albin Michel. Merci également Aline Perraudin et Baptiste Beaulieu. Demain, on s'intéresse au quotidien des parents autistes. Nous recevrons la journaliste Elisabeth Chungi et le romancier Douglas Kennedy, ainsi que Marie Hautefort, présidente de l'association Espoir vers l'école. Question témoignage au 01 45 24 7000.